Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici le mois de juin et voici l'été. Et quand on parle été, on parle aussi vacances. Quand on parle vacances, ça découle sur le tourisme. Et c'est donc le sujet de notre émission aujourd'hui. Il faut savoir que les chiffres de l'INSEE, qui comptabilisaient en effet tout ce qui est sur le tourisme, avec les nuits passées par les touristes français ou étrangers, que ce soit les hôtels, les campings, les villages de vacances, les auberges de jeunesse. Ben, la France, en 2018, a eu un petit record en matière donc, de tourisme, et c'est très bien. On compte 438 millions de nuitées, soit 9 millions de nuitées en plus, et une augmentation de 2,2%. Vous l'avez compris, tourisme avec Bernard, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Est-ce que cette entrée en matière vous plaît, Bernard?
Ah oui, absolument. On parle du tourisme par rapport aux avantages dans l'économie. Et 2018, pour la France, il y a eu une progression.
Oui.
Il faut savoir que la France est toujours, mais peut-être pas pour très longtemps, le grand pays mondial de destination touristique. Et Paris est la ville au monde qui accueille le plus de tourisme. Et le tourisme pour Paris, par exemple, mais il y a déjà quelques années, était à 35 millions de personnes par an sur Paris, en sachant qu'il faut déjà introduire des définitions pour savoir de quoi on parle. Quand on parle des touristes, il y en a deux catégories. Il y a ceux qui sont internationaux, c'est-à-dire non français en quelque sorte, et ceux nationaux, c'est quand même des choses différentes, y compris dans les dépenses et dans l'intérêt du séjour. La bagarre aujourd'hui, au niveau de la concurrence mondiale, bien entendu, c'est sur les touristes internationaux. Et d'ailleurs, on en a un peu parlé à l'occasion du débat sur l'avenir des aéroports parisiens. Et on va en reparler certainement lorsque ça va être soumis au vote populaire, leur privatisation. Les aéroports parisiens accueillent plus de pratiquement 110 000 personnes qui sont des touristes internationaux, c'est-à-dire qui viennent d'autres pays.
Oui.
Ensuite, pour être qualifié, comptabilisé touriste par l'INSEE, effectivement, il faut dormir au moins une nuit sur place et il ne faut pas rester en France pendant plus d'un an. À ce moment-là, on ne vous considère plus comme touriste.
Oui.
Il y a des cadres, il y a toujours des définitions pour savoir ce qu'on va comptabiliser, ce que l'on va voir.
Justement, on a parlé de ce petit record de l'année 2018. Est-ce que ce record montre le dynamisme du tourisme et est-ce que ça prouve qu'il y a de la place pour tout le monde ?
Ça, c'est assez difficile. Pourquoi ça a progressé autant, alors que certains s'attendaient que cela allait baisser? Il faut savoir que la France est la première destination mondiale du tourisme, et pour des raisons très diverses. L'art, la capitale, la Tour Eiffel, Notre-Dame, etc. Ces lieux touristiques de vieilles pierres d'histoire accueillent et fascinent le monde entier, ne serait-ce que par la Révolution française, la démocratie. Donc l'image de la France est très très forte dans le monde. Donc beaucoup de touristes, de gens de n'importe quel pays ont envie de venir visiter la France. Deuxième chose qui est mécanique. Là, ça va un peu modérer. Mécanique, c'est l'enrichissement de certains pays très peuplés. On a vu le Japon, on a vu la Corée du Sud, et puis maintenant la Chine. Or, la progression que vous annoncez pour 2018, c'est l'augmentation des touristes chinois. Vous vous rendez compte? Ils sont pas loin de 2 milliards. Et les touristes, ils s'enrichissent, ce pays se développe d'une manière prodigieuse. Et bien, eux-mêmes font du tourisme interne, ils visitent leur propre pays qui est très grand, mais aussi, ils ont envie d'aller à l'international. Et à Paris, je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire. Vous circulez, et qu'est-ce que vous croisez? Des groupes chinois. Des groupes chinois. Ah, des Japonais. Tiens, des Coréens. Des groupes chinois. Puis des Américains, etc. Ils sont très, très nombreux. Et autre aspect que peut-être on connaît dans notre région, sur Toulouse, il y a du tourisme chinois maintenant, et plus important que vous l'imaginez, et cela est historique, le tourisme japonais, ils vont tous à lui pour voir le musée Toulouse-Lautrec, parce qu'ils sont amoureux de ce peintre. Vous voyez, et avec ça, j'aborde pourquoi fait-on du tourisme. Que fait un touriste? On connaît bien le tourisme d'affaires. Tiens, j'ai une réunion à Paris. Je prends le week-end, je vais aller visiter, je n'ai jamais vu l'exposition du Louvre, je vais aller le voir. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le tourisme lié à l'affaire, au business, à l'opportunité. Ensuite, vous avez des personnes, nous en connaissons entre nous, qui vont visiter tout tel pays par curiosité. Parce que c'est un grand pays. On va aux États-Unis pour voir ce grand pays qui a une histoire récente. On va en Grande-Bretagne pour visiter les Anglais. Puis on va à Rome pour voir les vieux cailloux. Moi, personnellement, je me déplace un peu et j'adore aller voir, c'est ma culture, d'aller voir les restes, les temples, les restes grecs, les restes romains, en Turquie, dans les îles, un peu partout. Et même, je vais vous avouer que je suis allé voir, il n'y a pas très longtemps, au sud de Toulouse, dans les collines, quelques traces des Visigoths. Parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est notre histoire. Mmh. Chacun a sa passion. Oui. Ensuite, il y a le tourisme, vacances, fêtes. Il y a une partie des gens qui viennent, par exemple, sur Paris, qu'on comptabilise à Paris. En fait, ils vont à Disneyland. Et ce sont souvent des Français. Ils prennent l'avion à Toulouse, à Bordeaux, ou le train, ou ils vont en voiture. Ils s'en vont à l'hôtel et hop, ils vont voir, c'est un tourisme de divertissement. Ces motifs de tourisme existent à travers toutes les périodes. Nous, nous connaissons bien le tourisme balnéaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend la voiture, qu'on s'en va, mettons, à 7, à Agde ou à Le 4, pour parler dans nos proximités, ou de l'autre côté, si on en va sur la côte landaise et dormir, etc. Ça, c'est un tourisme balnéaire. Les sports d'hiver, c'est aussi une forme touristique. On quitte notre région, on y va pour des motifs sportifs. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, ils quittent là où ils sont pour aller faire de l'escalade dans les gorges du Tarn, etc. Leur activité physique. Il y a le tourisme vert qu'on appelle aussi. Des gens qui vont se mettre dans des endroits pour se reposer, dans le Morvan ou pourquoi pas en Bretagne, par rapport au climat. Il y a le culturel. Par exemple, Marciac attire énormément, nous le savons, l'été avec son festival de jazz.
Tout à fait.
Ce sont des touristes. Ils s'installent, ils viennent quelques jours, ils vont assister à des concerts et ils visitent autour, bien sûr. C'est un tourisme qu'on peut qualifier de culturel. Ou ceux qui vont à Toulouse pour voir un musée, ou qui vont aux abattoirs, ou qui viennent à Rieux pour voir le musée du Papauger. Mm-hmm. Ça, c'est un tourisme qu'on qualifie de culturel. Il y a le tourisme sexuel qu'on ne peut pas nier. On sait très bien que des personnes vont en Afrique ou vont en Asie pour trouver un compagnon ou une compagne. Attention, dans ces pays, il faut le voir, deux aspects dans le tourisme. Il y a l'aspect qui est chez nous, les chiffres, les résultats. Mais dans ces pays pauvres, des touristes, c'est une manne. C'est de l'économie, c'est de l'argent qui rentre. Et en plus, si on marie une des filles du clan avec un monsieur un peu âgé européen, c'est une rentrée régulière d'argent qui est assurée. Il faut le savoir. Moi, je l'ai vu, ça. Donc, il ne faut pas le nier non plus. C'est une forme touristique. Et ensuite, il y a des gens qui recherchent leurs racines. Je suis né là, ou j'ai des parents qui sont allés. Je veux aller voir, ou je veux aller voir plus loin. Ceux qui sont dans l'histoire. Vous voyez que les motifs sont très, très, très variés. Mais pour avoir le touriste,
oui,
il faut qu'il y ait ses intérêts, ses fixations. On dit que c'est une richesse, mais pour être la richesse d'un territoire, qu'est-ce que tu peux offrir aux touristes ?
Oui, tout à fait. Justement, est-ce que le tourisme est un levier central pour le développement économique ? On y est en plein.
Il est central dans certains cas, dans certaines hypothèses, lorsqu'il y a ce qui les attire, on l'a en abondance. Exemple, les sports d'hiver. Vous êtes une station de ski en haute altitude dans les Alpes. Vous avez pour l'instant un enneigement colossal très tôt et qui dure longtemps. Vous êtes dans les Pyrénées, petite station, c'est très dur. Vous êtes dans un endroit qui est naturellement pas favorisé. Il n'y a pas trop de neige, ça ne tient pas longtemps. Vous voyez, et avec le réchauffement climatique, ils vont être en danger. Mais vous avez des ressources naturelles liées à l'histoire. Si nous prenons notre vol estre, par exemple, au sens plus large, si vous regardez, par exemple, Foix, eh bien, c'est touristique aussi parce qu'ils ont un vieux château qu'on voit de partout, qui est placé sur un pic, c'est extraordinaire.
Et il y a l'histoire.
Après, vous vous promenez, vous avez les grottes de Niaud. Ça, c'est la nature qui les a faites, ce n'est pas nous. Vous allez plus loin, vous revenez par ici, vous allez au Mazalis, vous avez une grotte qui a une histoire, mais aussi qui a des vieux os, etc., des traces datant du paléolithique. Et il y a des gens que ça intéresse d'aller voir où étaient nos ancêtres. On a trouvé un bout de fémur, on connaît toute son histoire. Et puis vous avez, par exemple, la même chose dans d'autres communes, dans d'autres régions. Il y a des avantages naturels. Par exemple, si vous prenez Rieux ou Caserres, il y a une retenue sur la Garonne. Et bien sur cette retenue, on peut faire du canoë, on peut ramer, on peut faire de la voile. Et bien, c'est une activité ludique. mais aussi une activité qui peut être sportive et que les communes autour essaient de favoriser ou vont favoriser un peu plus. Pourquoi ? Les gens vont venir, ils vont faire leurs courses à un magasin, ils vont aller dormir à l'hôtel ou surtout dans les chambres d'hôtes et ils vont générer de l'argent qui rentre dans le territoire, une activité. Mais à travers ce que je dis, il faut bien voir qu'on a des avantages ou on ne les a pas. On peut les créer ou pas les créer.
Oui.
Et il faut quand même, les pouvoirs publics, là, je signale qu'ils ont souvent un rôle important à avoir.
Oui. Faut-il savoir garder le touriste sur un territoire pour pouvoir avoir ses retombées économiques, justement ?
Il faut le garder un peu. Il faut au moins qu'il y dorme.
Oui.
qu'il c'est mange vrai. Au restaurant, si possible, et qu'il achète ses biens à l'épicerie du coin. Et de ce point de vue, il y a une forme touristique qui rapporte très très peu au territoire, c'est les camping-cars. Les camping-cars, c'est le touriste qu'il ne faut pas, quelque part. Pourquoi ? Parce que le camping-car, d'abord, c'est normal dans son camping-car, c'est son avantage. Ensuite, il est très exigeant, d'ailleurs, sur les aires qu'on lui propose, éventuellement, ça c'est sûr. Ensuite, très souvent, moi j'en ai plusieurs autour de moi qui le font, très souvent, avant de partir, ils remplissent le camping-car de tout ce qu'il leur faut pour manger. Ils partent pour 15 jours, ils ont tout ce qu'il faut pour 15 jours. Donc, localement, ils achètent, bien sûr. Il faut bien aller chercher le journal ou du pain frais. Mais ils achètent assez peu en route. Et là où ils dépensent, c'est les stations pour refaire le plein d'eau, etc. C'est sûr qu'ils dépensent là. Et ces aires de camping-car, en fait, sont gérées nationalement par des sociétés privées. Personnellement, je ne connais aucune commune qui l'a pris en charge directement.
Oui.
Parce qu'il faut des techniciens, c'est tout, etc. Mais les retombées pour les communes sont tout à fait petites et localement très petites.
Mm-hmm.
Hein, à l'inverse de l'équipe qui fait, mettons, Via Garona, puisqu'il faudra bien en parler, je crois que c'est important pour notre région. Via Garona, ils commencent à circuler, ils arrivent, on les voit. J'en ai vu dimanche dernier, sac à dos, un jeune couple, sac à dos. Bah, il a fallu qu'ils aillent dormir dans le camping de rue, en l'occurrence, donc payer une place. Ils sont allés manger un petit morceau à un restaurant de rue. Voilà. Et puis ensuite, ils ont pris le café le matin, quelques viennoiserie et ce qu'il fallait par la journée à l'épicerie. Donc finalement, ils ont parsemé un peu de pouvoir d'achat partout. Ils ont semé.
Oui.
Cela, ils ont semé. Et avec la multiplication des personnes faisant ce parcours,
oui.
Eh bien, à ce moment-là, effectivement, ça, y aura beaucoup de sens.
Mm-hmm.
Voyez. Mais de l'autre côté, y a pas que ça. Quand on regarde le monde, nous, on se dit on a des atouts, il faut en profiter. Eh bien, on connaît des endroits où l'absence d'atouts est un atout.
Oui.
Le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans un désert à voir ? Que dalle. Et pourtant, quel rêve d'aller dans un désert. Et je dois le dire, quel plaisir, puisque j'y suis allé. C'est quelque chose d'étrange. Où est l'avantage ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Ce n'est pas nos parents, c'est rien. Il n'y a rien. Et nous-mêmes, on n'a rien comme histoire en ce qui me concerne. Et pourtant, on était nombreux dans le désert. Vous voyez, je citais par exemple le Wadi Rum en Jordanie, un désert extraordinaire. La Mauritanie, pour ceux qui ont le courage d'y aller. Le sud marocain, par exemple, c'est extraordinaire à voir. Grande destination touristique à la mode aujourd'hui, la Namibie. C'est un désert, mais il y a des animaux. Bon, alors, bon, on peut aller voir des éléphants, peut-être marcher dans le sable. Mais, vous voyez, des endroits qui, a priori, n'avaient pas d'avantage. Eh bien, ne pas avoir un avantage d'attractivité constitue un avantage.
Ouais.
Parce que vous ne pouvez vous rencontrer personne. Des endroits où il n'y a personne, personne ouais. ne va. Comme quoi, le tourisme, j'insiste toujours, ce n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qui va faire venir le touriste ? C'est vraiment, vraiment pas simple.
Ouais.
Ce qu'on croit un avantage ne l'est pas nécessairement. Et ne pas avoir un avantage peut être avantageux.
Oui.
C'est incroyable.
Est-ce qu'aussi le tourisme pour un territoire, et je pense là quand même au notre territoire, est-ce qu'il peut être porteur d'emploi ? Parce que ça aussi, c'est de la retombée économique. Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûre.
Ah ben si, la retombée économique, ça a un effet sur l'emploi.
Oui.
Ça a un effet sur l'emploi, tant et si bien. Si vous prenez à peu près les chiffres au niveau du monde entier, selon l'INSEE, les instituts anglo-saxons, le tourisme, au sens le plus large, représenterait à peu près 10% du PIB mondial, c'est énorme, et 9% de l'emploi mondial. Mais ceci, c'est une agrégation de chiffres qu'il faut manier avec prudence.
Oui, tout à fait.
Si l'on prend après la réalité locale, eh bien, il y a le paradoxe, par exemple, où on prend les sports d'hiver. Qu'est-ce que ça crée par emploi ? Pas grand-chose, c'est du partiel. C'est la saison, comme l'on dit.
Oui,
des saisons. Et ceux qui vivent dans la saison du sport d'hiver, dans les Alpes, elle est longue. Dans les Pyrénées, elle est courte. Certains font la saison de sport d'hiver et après la saison balnéaire à la plage.
Tout à fait, ça le détend.
Il y en a, mais c'est des emplois contractuels, courte durée, etc.
Oui, mais si on arrive à cumuler quand même,
mais
c'est
oui,
pas mal.
Mais bien
quoi.
Sûr, mais c'est pas mal.
Oui.
Mais ça génère de l'emploi.
Oui.
À partir du moment où il y a de l'hôtellerie, il y a de l'emploi. À partir du moment où il y a des activités, il y a de l'emploi, bien sûr. Mm-hmm. Il est plus ou moins fort selon le tourisme envisagé. Et ensuite, il y a les catégories de touristes.
Oui.
Alors, il y a l'objectif, je dis, pourquoi on vient ? Est-ce que c'est pour voir la ferme des ancêtres, Cro-Magnon, ou est-ce que c'est pour voir des animaux dans la nature ? C'est pas pareil. On n'a pas les mêmes dépenses. Et ensuite, il y a l'origine. Pourquoi ce tourisme augmente ? Et il va falloir aussi en parler un petit peu. Pour aller visiter quelque chose, pour partir, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir du temps.
Oui.
Donc, la progression des congés payés a été quelque chose de fantastique pour le tourisme. Ça l'a développé, l'apparition des congés payés. Ensuite, il faut avoir de l'argent. Quand vous partez de chez vous, bien sûr, il faut pouvoir dépenser, et c'est ce qui est intéressant. Hein, à part de partir et de se nourrir en route en prenant les groseilles qui pendouillent, non, il faut remplir le sac à dos. Et puis ensuite, il faut avoir les envies. Et les envies, qu'est-ce que c'est avoir envie d'aller voir tel et tel site ? Alors là, aujourd'hui, la bagarre, elle se fait au niveau des télévisions. Elle se fait au niveau de Facebook et autres systèmes. Il faut créer auprès d'un tas de gens, il faut leur créer l'envie d'aller voir ça. Les émissions naturelles donnent envie d'aller voir des endroits où il y a des animaux qu'on n'a pas ici, bien sûr. Des chutes d'eau qui sont colossales, des spectacles de la nature. Mais ça, c'est des images de la télévision. Et puis ensuite, il faut avoir des gens qui sont allés et qui manifestent leur joie, leur enthousiasme avec les outils modernes. D'ailleurs, on les aide, on met des logiciels, des algorithmes qui répètent à longueur de journée sur les sites internet et tout, combien ils ont été contents d'être allés voir telle chute, pour ne pas parler du Niagara. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des envies, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on va voir. On s'embête, on fait des voyages, on change ses habitudes, on laisse faire la maison. Et finalement, est-ce qu'on est vraiment content en revenant ? Il faut créer une envie. Et dans notre monde d'aujourd'hui, les gens qui ont les moyens, et là on va parler des inégalités, c'est une inégalité fondamentale, les gens qui ont vraiment le moyen, eh bien on leur crée l'envie, ils voyagent, ils ont ce plaisir s'ils y arrivent. Ceux qui n'ont pas le moyen, ou ceux qui n'ont pas ce désir un peu culturel de se trimballer dans le monde, de le parcourir, eh bien restent chez eux, et quelque part, ils traduisent là aussi, une petite aigreur, peut-être, dans, par moment, mais c'est ainsi. Parce que des personnes, moi je vois autour de moi des personnes, quand on leur dit, bah, tiens, on va aller faire une petite rando dans les Pyrénées, et puis on va s'arrêter à Saint-Bertrand, bien, qu'est-ce qu'ils disent ? Oh ben non, moi je ne viens pas, c'est pas intéressant. On va marcher, on va voir des arbres, peut-être un isard, et peut-être, qui sait, peut-être un jour un ours, et puis on va voir un petit concert, une répétition d'un concert à Saint-Bertrand. Qu'est-ce qu'on est ? On est amuré, et pourtant on va se balader. On est des touristes de ce point de vue.
Oui, tout à fait.
Et puis on va croiser des Américains, des Allemands ou peut-être même des Belges. Allez savoir, sur la route. C'est cette réalité-là qui est compliquée à intégrer.
Mmh. Est-ce qu'il faut construire justement une stratégie de développement touristique ? Je parle là sur nos territoires, un territoire comme le nôtre ou comme ceux de nos voisins ariégeois ou que sais-je ?
Ben, bien sûr, puisqu'il y a activité économique prometteuse. Ensuite, c'est quand même de la compétence locale.
Oui.
Ce n'est pas un ministère qui s'en occupe.
Oui.
Et il va dire OK, on va donner un peu, quelqu'un, un peu d'argent, mais c'est vraiment local. Au niveau d'aujourd'hui, des intercommunalités, c'est d'ailleurs leur compétence. Puis il y a des mairies qui sont très sensibles parce que ça génère, on a toujours l'espoir que ça va générer des rentrées financières, que ça va générer du dynamisme local. Parce que le touriste que vous rencontrez, qui vient dormir chez vous, ou alors vous prenez le café à côté de lui, vous parlez sa langue ou il parle la vôtre, bien vous échangez. Et qu'est-ce que ça fait quelque part ça, ça nous sort de nos préoccupations.
Tout à fait.
Et ce qu'on a, on en parle et on peut être fier de son territoire. Et tout ça, ça joue. Alors là, on est dans le domaine de la psychologie sociale. Ça joue, ça valorise. Et ça nous sort un peu d'une boîte noire, en quelque sorte. Donc c'est hyper sympa quand on dit « j'ai croisé ce matin des touristes, j'ai croisé avant-hier d'autres touristes, ils venaient de là, on a discuté 5 minutes ». Ben voilà, c'est colossal, ça nous change de toujours les mêmes avec les résultats du concours de pétanque, c'est un peu limité.
Tout à fait.
Mais malgré tout, ça existe. Ouais. Et le tourisme, c'est ça, on fait des dépenses pour les attirer, si on a des avantages naturels. Si vous prenez par exemple Cazères, ils ont la Garonne. Ils ont un plan d'eau et ils ont fait une maison de la Garonne qui va bientôt, là, dans quelques jours, qui va être inaugurée. Et on espère que ça va réussir, qu'il va raconter l'histoire de la batellerie sur la Garonne. Eh bien, c'est fantastique parce qu'ils pensent que ça va attirer du monde. On le verra. Mais, voyez, on va venir parce qu'on est intéressé par l'histoire.
Oui.
Les gens qui ne sont pas intéressés par l'histoire, eh bien, ils ne viendront pas.
Oui, tout à fait.
Voilà. Vous voyez, c'est... ce biais-là, celui qui est intéressé pour aller voir des animaux, par exemple des oiseaux, etc., il va dire, ben moi, ce week-end, avec un ami, on s'en va à la réserve ornithologique du Vernet, par exemple, où il y a de tout, y compris des oies sauvages qui se reproduisent là, et ils vont prendre leur plaisir plein des yeux. Ils sont touristes.
Oui, oui.
Ils vont passer une journée, peut-être pas y tourner et dormir. L'objectif, c'est d'attirer des gens et qu'ils restent un jour, deux jours.
Oui, tout ça, cette manne économique, on a intérêt à la cultiver et, j'allais dire, à la faire progresser. C'est aussi la vie d'un territoire, ça, quel que soit le territoire.
Oui, et là se pose, pour moi, une vision en tant qu'économiste, mais aussi citoyen un peu voyageur.
Oui.
C'est que la compétition, là, on se place dans un cadre de compétition entre territoires, et ça, je pense que c'est une erreur.
Mm-hmm.
Chaque territoire a des avantages ou ne les a pas.
Oui.
Bien sûr. Je vais vous dire, honnêtement, si ici, là, dans le Volvestre, on avait les pyramides égyptiennes, on ne se ferait pas de soucis pour attirer les touristes. Il y a des choses qui sont naturellement l'avantage. On l'a ou on ne l'a pas. Lorsqu'on ne l'a pas, il faut créer quelque chose. Bon, l'exemple, il faut créer. On avait, dans des histoires anciennes, une voie vers Compostelle. Eh ben, elle a été ranimée, la voie Garonne. Il y a mis les moyens pour attirer les touristes qui vont passer. C'est surtout du passage qu'on va avoir. Mais le passant laisse des traces. C'est
oui,
toujours
mais si
pareil.
Le passant, il reste 2 jours, c'est gagné.
C'est gagné localement, est-ce qu'il va le passer.
Oui.
Et puis après, ce qu'il y a, c'est que s'il a été content, s'il a vu quelque chose d'extraordinaire, il transmet l'information.
Mm-hmm.
Voilà,
et c'est ça.
Et donc, il faut tout le temps dans les zones qu'on veut touristiques, il faut qu'il y ait un étonnement.
Oui.
S'il est étonné, c'est grandiose.
Oui.
C'est fabuleux. Comment ils ont fait ça? Est-ce que ça va tenir? Ça m'a parlé, ça me raconte l'histoire et tout ça. On leur envoie la famille, le pays d'origine. Et à ce moment-là, on a l'afflux touristique qui se met en place.
Mmh. Est-ce que justement, tout un chacun de nous qui connaissons nos territoires, je parle du nôtre ici, mais je peux parler aussi du Comminges, on peut parler des Landes, de n'importe quel territoire, est-ce que tout un chacun a justement intérêt à divulguer les points stratégiques qui seraient susceptibles d'attirer du touriste?
Oui, bien sûr. Mais nous-mêmes, chacun, on est acteur dans notre territoire.
Oui.
On est acteur très fort, vivant, ou acteur qui ne bouge plus. Mais on est tous acteurs dans notre territoire. La façon qu'on a de le présenter quand nous-mêmes, nous sommes touristes ou ailleurs, eh bien, c'est un avantage pour notre territoire. Si on en est satisfait, s'il y a des choses qu'on aime, etc. Le tourisme, c'est ça. C'est comme une grande éponge, mais une grosse éponge. Et pas une petite éponge déviée. Elle prend de l'eau, elle la rejette difficilement. Il faut y appuyer, la traiter pour la remplir. Le tourisme, c'est ça. C'est très divers, très varié. Et les règles absolues, il n'y en a pas.
Mm-hmm.
Ce qu'il y a, ce qui est le point fort, c'est l'avantage naturel. L'avantage naturel, eh bien, on l'a ou on ne l'a pas. C'est le point de départ. Si vous êtes un pays avec de la neige pendant 3-4 mois, ben, c'est un avantage naturel pour des sports qui utilisent la neige. Des sports, ce n'est pas de l'histoire. Si vous êtes un pays avec des restes, des traces, des vieilles ruines, une histoire très 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 vieille, vous avez un avantage par rapport à une population de touristes qui veulent venir, qui sont intéressés. Si vous avez une tradition de combat... Pareil, si vous avez naturellement des avantages liés à la nature, des forêts, des animaux, si les autres ne l'ont pas, vous avez un avantage.
Oui.
Et oui, c'est sûr que si on avait, par exemple, dans le Volvestre, un troupeau d'éléphants, ça serait un élément touristique important. Mais est-ce qu'un zoo est un élément touristique important? Localement, oui. S'il est très grand, peut-être, parce que des gens viendront d'une autre région française pour le visiter, mais peut-être pas de l'étranger. Mm-hmm. Voyez.
Et oui.
Et oui.
Forcément.
Le tourisme de proximité, celui qui est dans le pays, etc., génère une activité. Mais ce n'est pas, en termes financiers, l'activité la plus importante, c'est celui qui vient de loin.
Oui.
Il commence à dépenser dès l'aéroport.
Oui. Est-ce que les institutions, justement, que ce soit département, région ou pays, même, pourquoi pas, et même maintenant peut-être l'Europe, est-ce qu'on a intérêt, justement, tous à aller vers cette manne, le tourisme.
Manne est un mot peut-être un peu excessif, hein, parce qu'il faut vraiment des efforts, et ça ne vient pas comme ça. Mais oui, on a tous intérêt. Moi, je dis un intérêt, aussi, il y a une raison que peut-être certains de nos auditeurs ne partageront pas, à savoir que le tourisme qui vient, c'est un regard sur le reste du monde. Quand je vois beaucoup de gens qui sont dans des attitudes de refus de l'autre, quelque part. De l'autre, c'est un étranger, il n'est pas comme nous, etc. Et puis, en toute chose. Je trouve que quand on rencontre des gens d'ailleurs dans le monde, qu'on les voit comme ils sont, des fois, ça nous fait rire, parce qu'ils ne sont vraiment pas comme nous. Leur comportement nous paraît bizarre, mais au moins, on l'a vu. Et ce sont comme des gens comme nous, ils dorment. Il faut qu'ils aient des toilettes, ils mangent. Quelle est la différence entre moi et un Chinois? Quelle est la différence? On est deux êtres humains, avec certainement même souvent des préoccupations similaires. Pour terminer quand même, je voudrais dire quelque chose. Je suis en train, depuis plusieurs mois, c'est presque mon livre chevet, c'est le voyage de Strabon dans la Gaule. Ça se situe au 1er siècle après Jésus-Christ, et c'est un Grec qui se voulait un peu géographe, à partir d'autres Grecs qui avaient fait une image du monde, il dessinait le monde, et qui a parcouru la Gaule de l'époque, mais il est monté même jusqu'en Bretagne. Et il décrit, partout où il passait, les villes, ce qui se restait, parce que Jules César, il avait foutu une raclée aux Gaulois. Et ce qui s'est passé, comment ils ont occupé. Narbonne, c'était une ville romaine. Toulouse, c'était une ville romaine.
Oui.
Qui le sait? Où sont passés les chemins? Les chemins, entre les villes romaines, il y avait des routes.
Oui.
Eh bien, où elles sont, celles-là? Parce que c'est une super route. J'en connais quelques-unes, je dois le dire honnêtement. Eh bien, c'est de super routes de randonnée, je dois dire. C'est cette trace-là, et j'adore relire Strabon, et quand il me raconte ce qu'il a vu en Narbonnaise en particulier. Cette histoire, extrêmement ancienne, quelle est ça? Il n'y a pas d'importance politique de quoi que ce soit. Ben moi, j'ai eu envie de le lire et de le relire et de revoir ça. Voilà. Chacun a son centre d'intérêt. Mais peut-être que je l'ai lu, peut-être que j'ai envie d'y retourner à pied. Et qu'il n'y a pas que moi, parce qu'il va être traduit en américain, ce pauvre Strabon, et qu'est-ce qu'il va nous raconter? Le tourisme, c'est extrêmement ouvert, extrêmement portes ouvertes, très 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 fortement. Mais pour chaque territoire, pour chaque région, on peut trouver le moyen d'en faire une activité économique, qui est bien sûr lié aux avantages naturels. Et ensuite, il ne faut pas avoir d'illusions, on ne va pas révolutionner le monde, mais au moins, le touriste qui vient nous fait voir à nous aussi une autre partie du monde. Si on parle avec lui, il nous parlera de chez lui et nous on parle de chez nous. C'est fantastique. Merci à chacun et bon été et bonne balade. Et faites du tourisme, en quelque sorte.